Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le timide retour des touristes en Gironde, ils n'ont pas renoncé à leurs vacances malgré l'incendie qui a ravagé la région. Reportage à Arcachon avec certains professionnels du tourisme qui retrouvent le sourire. Dans la Loire, des couvre-feux pour moins de 16 ans suspendus par la justice qui émet de sérieux doutes sur leur légalité. Et puis le mea culpa de la FIFA face au scandale sur son projet d'investissement privé. Elle présente ses excuses mais affirme son soutien à son président Gianni Infantino.
Clara, le secteur du tourisme n'a pas dit son dernier mot en Gironde.
L'incendie historique qui a ravagé le département est enfin maîtrisé selon la préfecture. Près de 600 pompiers encore mobilisés face aux fumerolles, mais les vacanciers commencent doucement à revenir. En témoignent ces chiffres de l'agence gouvernementale Atout France. 74% des réservations sont maintenues. Marion Gauthier, à Arcachon, il y a un peu plus d'optimisme.
Les parasols à nouveau plantés dans le sable.
Le week-end dernier, il n'y avait personne.
Et des touristes qui voudraient être plus nombreux.
Le monde aux caisses. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. C'est les vacances, quoi.
Ça permet de se dire aussi que les incendies, c'est derrière nous et que la région revit, quoi.
Vous avez choisi ou pas encore ?
Les terrasses sont clairsemées, mais le parking de la plage est plein, plaisante une serveuse.
Voilà, il était temps. C'est pas un mois d'août comme on l'attend, mais sinon, oui, on récupère un petit peu plus chaque jour.
Environ 40% de pertes, c'était 60 la semaine dernière.
On voit certaines voitures arriver avec des valises dedans, quelques arrivées donc au niveau du train. Les activités en bateau ont repris.
Mais en retrait du bassin d'Arcachon, de la désillusion aussi.
Voilà, c'est vide, ça fait mal.
Dans le silence du camping de Lionel.
Normalement, là, tous les emplacements sont pris à cette époque-là. Et là, vous voyez, il y en a un sur deux, quoi. Donc ça fait un taux d'occupation de 58%. Au mois d'août, c'est même pas imaginable. C'est des rires nerveux, c'est nerveux.
Toute la Gironde n'a pas brûlé, insiste-t-il. Beaucoup de professionnels reprochent à la préfète d'avoir incité les touristes à ne pas venir dans le département.
Tiens, justement, vous aviez l'intention d'aller en Gironde pendant ces vacances et vous maintenez votre projet. Eh bien, vous nous appelez au 3216 pour nous expliquer. Tout à l'heure, nous serons avec un restaurateur et la patronne du tourisme en Gironde. Ce sera à 7h40 sur RMC, RMC Story.
La Gironde où la préfète débloque 300 000 euros d'aide d'urgence pour les collectivités confrontées à des travaux. Après ce méga-feu, un comité de pilotage également mis en place pour la reconstruction. Le gouvernement, lui, dévoile un plan global pour ne laisser aucun agriculteur seul face aux canicules, aux incendies et à la sécheresse. Dans ce plan annoncé par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, des dérogations, des simplifications et des mesures donc d'urgence pour aider les exploitations dans leur trésorerie. Dans la Drôme, le feu est stable mais pas encore fixé autour de Bellegarde-en-Diois. Pour le Var, c'est une nouvelle journée à haut risque qui s'annonce. 8 massifs du département sont fermés à cause de risques incendies extrêmes.
Clara, des couvre-feux pour mineurs retoqués par la justice.
Oui, on vous en a beaucoup parler sur RMC. Ces couvre-feux instaurés depuis le début de l'été pour les moins de 16 ans dans 4 communes de la Loire près de Saint-Étienne. La justice vient de les suspendre. Le tribunal administratif de Lyon estime qu'il existe un doute sérieux quant à leur légalité, ce que contestent les maires, Victor Girard.
C'est incompréhensible. Voilà la réaction pleine de colère du maire de Saint-Chamond, Axel Dugas, le premier à avoir adopté un couvre-feu pour les mineurs dans la Loire. L'élu dénonce la décision du tribunal administratif qui pointe, je cite, l'absence de circonstances particulières locales.
La préfecture, on leur a envoyé les mains courantes de la police municipale. 188 interventions sur des regroupements de mineurs après 23h entre le 1er janvier et le 30 juin. Donc quand on me dit c'est pas assez quantifié, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité.
Des interventions pour des nuisances sonores par exemple, des plaintes de riverains qui réclamaient plus de tranquillité. Pour l'élu, le couvre-feu avait produit ses effets.
On a senti un apaisement, un calme. La peur de la police pour les jeunes qui créaient des nuisances.
Avec la suspension de son arrêté, le maire de Saint-Chamond a donc le sentiment d'être pris entre deux feux.
Les gens nous tapent dessus en disant « ramenez de la sécurité ». Et derrière, l'État vous empêche. On a l'impression d'être abandonné, en fait.
De son côté, Nathalie Théiot, la présidente de la Ligue des droits de l'homme, salue la décision du tribunal administratif et dénonce des couvre-feux devenus de plus en plus fréquents.
Des maires l'ont fait, alors tout le monde se met à le faire. Comme une sorte de politique d'affichage du maire, alors que c'est pas son travail. Son travail, c'est de protéger la liberté.
Les maires des 4 communes concernées réfléchissent désormais à saisir le Conseil d'État.
Là encore, justement, qu'est-ce que vous en pensez de ces couvre-feux pour mineurs? Vous nous appelez au 3216. Vous réagissez également sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424.
Le chef Jean Humbert échappe pour l'heure à une mise en examen. Le vainqueur de Top Chef, accusé de violence conjugale par plusieurs de ses ex-compagnes, il a été entendu hier par un juge d'instruction après 36 heures de garde à vue et a été placé, Pierre Bazin, sous le statut de témoin assisté.
Oui, c'est un statut plus clément que celui de mise en examen qui est décidé par un juge d'instruction, notamment lorsque les indices ne sont pas suffisants. Toutefois, ce statut ne veut pas dire qu'il n'existe aucune charge contre le chef cuisinier. Au contraire, le juge d'instruction, en plaçant Jean Humbert sous le statut de témoin assisté, estime qu'il y a des éléments rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction. 6 de ses ex-compagnes ont dénoncé depuis plusieurs années des violences de différentes natures, nez cassé, morsures, comportements humiliants. Jean Humbert a toujours nié ces accusations. Hier, l'une de ses avocates a salué une décision de justice rassurante face à la complexité de ce dossier. Les investigations vont se poursuivre et Jean Humbert pourrait être mis en examen plus tard au cours de la procédure si de nouveaux éléments apparaissaient durant l'instruction.
Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. Le corps de la femme emporté par les eaux en Haute-Savoie a été retrouvé hier, victime de la montée des eaux après un violent orage près de Samoin. Cette femme de 56 ans, originaire de l'Oise, était en vacances dans la région avec son mari. La liste s'allonge. Encore un candidat à la présidentielle visé par une ingérence en provenance de Russie. Après Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann, c'est au tour de Gabriel Attal, visé par une opération de désinformation selon son entourage, des contenus dans lesquels le candidat de Renaissance est présenté par exemple comme atteint de la maladie de Parkinson. Sonia Gobry, service politique d'RMC, c'est la troisième ingérence pro-russe en seulement quelques jours.
Et avec toujours le même mode opératoire, identité visuelle, logo de grands médias français usurpé pour diffuser de manière coordonnée sur les réseaux sociaux, de fausses rumeurs, des montages truqués. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, ciblés à 8 mois de la présidentielle. L'objectif est clair, déstabiliser la campagne. Pour l'instant, ces opérations de manipulation restent limitées, elles sont peu visibles, mais la vigilance reste de mise. Auprès de RMC, une source sécuritaire prévient, il en suffit d'une d'ampleur et là, il y aura un impact sur le débat public. La menace est réelle. Elle met en garde le Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors, pour mieux lutter contre les ingérences étrangères, le gouvernement a présenté un projet de loi qui doit être examiné cet automne. Il prévoit notamment de durcir les peines en cas de diffusion de fausses informations dans un contexte électoral.
Qui pour sauver Duralex? Les candidats à la reprise du célèbre fabricant de verre ont jusqu'à midi pour déposer une offre. Duralex placé en redressement judiciaire en juin, 2 ans après l'euphorie du sauvetage par les salariés et la création d'une SCOP. Martin Bourdin, cela n'aura donc pas suffi à sauver l'entreprise et les salariés sont de plus en plus pessimistes.
Le nom du seul repreneur déjà connu ne les rassure pas vraiment. Ses salariés, le groupe Carlessimo, déjà candidat à une reprise il y a 2 ans, avec à l'époque un plan qui prévoyait plus de 150 suppressions d'emplois.
Une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir la casse salariale. Hein.
François Dufresne est délégué syndical CGT à Duralex.
On a toujours l'espoir, on l'espère pour les salariés. Mais bon, j'ai plus l'impression que ça va être des coupeurs de tête qui vont arriver. Hein. Quand ça fait 35 ans que vous y êtes et c'est la 5e reprise... On commence à être blasé. T'as l'impression qu'on nous roule dans la farine. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait de l'artisanal. On est incapable de calculer un prix de revient. Le coût de fabrication, il est énorme aujourd'hui. Tant qu'on sera pas capable de stabiliser tout ça, on verra pas clair.
Depuis 2 ans, une seule des 5 lignes de production de la Verrie fonctionne.
Moi, j'ai connu il y a 35 ans, se battait pour les arrêts de ligne, pour faire un minimum d'arrêts de ligne, pour produire un maximum, mais là, on fait le contraire.
Car Duralex a trop de stock. L'entreprise expliquait début juin produire trop pour trop cher. Les ventes ne suivent pas, ce qui aggrave les difficultés financières d'une verrerie déjà pénalisée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.
2 soldats israéliens tués dans le sud du Liban, annonce ce matin l'armée israélienne, tués au cours de combats avec le Hezbollah. Ce sont les premiers morts côté israélien dans cette région depuis la fin du mois de juin.
C'est le scandale qui agite le monde du football en ce moment, le projet de la FIFA d'ouverture à des investisseurs privés, Clara.
Et qui depuis 10 jours suscite énormément de critiques. Eh bien la FIFA fait son mea culpa après une réunion de crise au Maroc hier et l'abandon du projet. Un communiqué a été publié tard hier soir, Célestin Bougère. La FIFA reconnaît donc des erreurs et présente ses excuses.
Oui, des excuses, mais la FIFA ne lâche pas son patron pour autant. Dans son communiqué, l'instance dirigeante du football mondial réaffirme son plan plein soutien à Gianni Infantino qui est attaqué de toutes parts ces derniers jours, à commencer par Luis Figo. Son conseiller a réclamé hier sur les réseaux sociaux la démission du président de la FIFA. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais pas pour sauver le football, explique l'ancienne gloire portugaise. Plus tôt dans la semaine, Arsène Wenger, directeur du football à la FIFA, a pris ses distances avec Gianni Infantino. Mais le coup de grâce est arrivé dans un mail envoyé aux employés de la FIFA de la part du secrétaire général de l'instance, l'homme le plus proche d'Infantino, Matthias Grafström. Il parle d'une série d'événements tristes et répréhensibles, sans un mot pour son patron. Et l'UEFA, l'instance européenne, va accélérer la contre-attaque lors d'une grande réunion prévue la semaine prochaine en Autriche.
Célestin Bougère, une lourde défaite pour le Paris Saint-Germain hier, renversé 3-0 en match amical par Mallorca, club de deuxième division espagnole. Le coach Luis Enrique a aligné une équipe particulièrement rajeunie, hein, privée de ses nombreux cadres qui viennent de revenir de vacances après le mondial. Et puis le rêve de doublé s'éloigne considérablement pour Pauline Ferrand-Prévot. La Française a encore pris du retard hier sur la cinquième étape du Tour de France Femmes, remportée cette étape par la néerlandaise Demi Vollering, et une sixième étape aujourd'hui pour les baroudeuses entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. Ce sera à vivre évidemment sur RMC.
Merci beaucoup Clara, et le prochain journal ce sera à 7h30.